France Inter, le 18-20.
Mais comment c'est possible de se retrouver à 45 députés à 6h du matin pour voter un texte de loi? Le député, il n'est jamais à Paris. Le député, il n'est jamais dans sa circonscription quand on a besoin de lui. Finalement, franchement, ils ont l'air malins à se précipiter sur le micro le mercredi. C'est uniquement, évidemment, parce qu'il y a les caméras de télé qui sont là. Comment c'est possible que ça prenne autant de temps pour faire passer un projet de loi? Qui pose les questions au gouvernement? Est-ce que c'est pas cousu de fil blanc, toute cette affaire? La défiance vis-à-vis des parlementaires, elle ne date pas d'hier. Et toutes ces questions que vous venez d'entendre, on les a entendues maintes fois. On remet en cause le nombre, le travail, on accuse les députés d'absentéisme permanent. Au fond, on ne sait pas très bien s'ils sont des élus de terrain ou chargés de rester à leur banc à l'Assemblée. Cette défiance a pris un autre tour, vous l'avez constaté avec nous, avec l'arrivée des Gilets jaunes. C'est même l'une des choses qu'on a entendues sur les ronds-points. Député, à quoi tu sers? Et c'est dans cet esprit que le projet Arcadie a publié en fin de semaine dernière un rapport sur l'activité des députés, leur rôle exact, leur présence, leur travail en commission et ailleurs. Alors ce soir, c'est à votre tour. Toutes les questions que vous avez envie de poser à votre député, ben allez-y. Pourquoi est-ce que vous voulez exactement savoir, pardon, à quoi il sert, ce qu'il fabrique en commission, combien d'heures il travaille par semaine, s'il fréquente la buvette assidûment ou pas? On est parti.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Parce qu'il paraît que c'est l'antichambre, vous nous raconterez ça dans un instant, du Parlement, cette buvette. Bonsoir André, vous êtes à Strasbourg, soyez le bienvenu.
Bonsoir. Eh ben écoutez, je vous appelais parce que moi je me pose souvent la question à quoi sert un député. Pour moi, c'est avant tout une apparence de démocratie. C'est ce qu'on vous apprend à la faculté de droit ou à Sciences Po ou bien avant à l'école primaire ou au collège. C'est celui qui soi-disant représente le peuple via le suffrage universel. Mais tout ça, c'est du pipeau parce que pour être élu, il faut être investi par un grand parti. Il est rarissime, extrêmement rare qu'on soit élu député si on n'a pas une investiture d'un grand parti. Ensuite, le député, il a en permanence des coups près au-dessus de la tête. C'est la dissolution possible. Certes, maintenant, c'est moins facile depuis la réforme Sarkozy. C'est une fois tous les 5 ans seulement. Mais le président peut à tout moment dissoudre le Parlement et que vous ne retrouvez pas votre boulot. Le député, il a une famille. Tous les députés sortent pas de familles blindées. La plupart ne sortent pas de familles de grands industriels ou de grands propriétaires fonciers. Donc ils sont quand même très tributaires. Ils sont au garde à vous, au point que sous le général de Gaulle, on parlait d'un parti de godillots, mais on pouvait dire la même chose sous Mitterrand, sous Balladur ou sous Sarkozy. Et c'est quoi avant tout un député? C'est une assise pour un parti. Et c'est aussi quelqu'un auquel on donne le sentiment d'être un peu important, dont on lui donne un salaire qui est somme toute pas extraordinaire, 5 900 ou 6 000 francs net, je crois, par mois, si mes souvenirs sont bons.
En euros, on est passé à l'euro, hein, mais bon.
Excusez-moi, 5 900 ou 6 000 euros par mois, ça peut sembler extraordinaire pour un smicard, mais quand on voit ce que gagnent des joueurs de football pour courir après un ballon, c'est somme toute très peu de choses. Mais il y a tout ce qui est autour, il y a le prestige, il y a les avantages en nature.
Mais du coup, André, pardon, on a bien compris votre message, juste en un mot avant de passer, avant qu'on puisse répondre à tout ce que vous dites, vous préconiseriez quoi éventuellement? C'est-à-dire, si les députés ne servent à rien en l'État, qu'est-ce que vous imaginez, vous?
Ah ben, moi, c'est très simple. Monsieur Macron, dans une réforme qu'il avait proposée au tout début de son mandat, de réduire, je crois, de 30% ou 35% le nombre de députés, je crois que c'est une erreur. Il faut diviser le nombre de députés par 4. Qu'il n'y en ait plus que 120 ou 130, ce seront des hommes puissants, ou des hommes ou des femmes, des hommes ou des femmes puissants et influents, des hommes qui compteront et des hommes auxquels on ne pourra plus mettre un couperet au-dessus de la tête et surtout supprimer le droit de dissolution. Parce que cette dissolution, c'est quand même un chantage permanent. C'est pas du chantage au sens pénal, mais c'est du chantage dans les faits. Donc diviser par 4, et là vous avez des hommes et des femmes puissants qui peuvent peser et qui peuvent vraiment proposer quelque chose. Et ça ne nécessitera pas d'augmentation de budget, parce que vous gardez le même budget, mais vous donnez des moyens réels d'action à ces députés.
Allez, merci beaucoup. On a bien compris, André. Puis il y a plein de propositions dans ce que vous dites, ça va intéresser nos invités. Bonsoir, Trissa Catrinet.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice de ce projet Arcadie qui centralise les données sur la vie parlementaire et qui avait écrit, co-écrit ce rapport sur l'activité réelle des députés. On y viendra. Et bonjour, Jean-Luc Warsmann.
Bonjour.
Vous êtes député UDI Agir et indépendant des Ardennes. Exactement. Et vous êtes plutôt bien noté. Donc, bravo. Félicitations. Vous nous expliquez comment ça marche, d'ailleurs, ces histoires de présence. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce que nous dit André. D'abord, alors, lui considère que ça sert pas à grand chose. Très bien. Les députés ne sont au fond que l'assise d'un parti. Jean-Luc Warsmann, est-ce que on peut effectivement être un député purement indépendant d'un parti ou est-ce que c'est très très marginal au fond?
Alors je suis un exemple. Je suis un exemple parce que lorsque j'ai été élu comme suppléant d'un député qui a battu le candidat officiel de la droite républicaine et qui a battu au deuxième tour le candidat de la gauche républicaine. Et depuis, j'ai été réélu et je tire ma très grande liberté à l'Assemblée du fait que je suis élu sur un territoire. Et donc la liaison, elle est entre la population et le député. Et c'est ça quelque chose de très important. Alors un député, c'est plusieurs choses. C'est à la fois d'abord un législateur, il vote la loi. C'est ensuite quelqu'un qui contrôle. S'il n'y a pas demain matin une majorité pour le gouvernement tombe. S'il n'y a pas une majorité pour voter le budget, il n'y a plus de budget, il n'y a plus de gouvernement, la majorité tombe. Et puis une troisième relation qui est très importante, c'est la relation avec la population. Vous voyez, je suis rentré tout à l'heure à Paris. Ce week-end, j'ai vu plus de 50 personnes en rendez-vous individuel. Et ça, ce lien, il est extrêmement important.
Mais alors du coup, parce que c'est toujours le vieux débat, est-ce qu'un député et son rôle, est-ce que c'est un député de terrain, est-ce que c'est un élu de terrain réellement, c'est-à-dire un élu chez lui, l'important c'est la circonscription, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait les lois, donc son boulot c'est avant tout de porter une politique et d'être à Paris. Alors vous allez me dire,
c'est un équilibre.
Pourtant vous n'êtes pas normand, mais...
Non, mais c'est un équilibre. Si vous voulez, le fait de recevoir tout habitant qu'il souhaite sans lui demander pourquoi il veut voir son député, c'est la garantie que le député ait les pieds sur terre, c'est la garantie qu'il soit en phase avec les préoccupations des concitoyens. Et quand vous remontez à Paris le mardi qui suit, le fait d'avoir cette proximité de terrain, c'est vraiment la grande assurance que vous ne soyez pas déconnecté.
Trice et Catherine, sur la même chose. D'abord, est-ce que c'est une sorte de d'exception finalement, Jean-Luc Warsmann, on parlait de l'assise obligatoire. Si on n'est pas adoubé par un parti, ça marche pas. On finit pas à l'Assemblée nationale. C'est vrai ou pas?
C'est vrai, c'est pas vrai. Il faut vraiment moduler pour la simple et bonne raison qu'effectivement, ce qu'on a bien vu quand même avec La République en marche, c'est qu'on a vu aussi des gens débarquer. C'est vrai. Il y a des députés qui nous l'ont dit ouvertement pendant le rapport et dit voilà, moi je me suis présenté à toutes les élections locales depuis je ne sais plus quelle année. Cette sélection-là, je l'ai gagnée tout simplement parce qu'il y avait Emmanuel Macron sur mon affiche de campagne. Mmh. Alors après, la question de l'assise et des moyens en dehors des partis, effectivement, c'est vrai que ça sert, c'est un outil. Est-ce qu'on peut exister en dehors des partis? La vérité, c'est qu'en fait, individuellement, un politique, il n'existe pas. C'est toujours un travail d'équipe. Le député, il n'est pas seul. Il est avec d'autres députés. Il est avec des collaborateurs. Il est avec des administrateurs. Et il est avec des concitoyens. Donc.
Mais c'est vrai aussi que voter de droite ou de gauche en fonction d'eux parce qu'on trouve que le projet de loi est bien, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ça arrive quand même effroyablement rarement.
Ça arrive effroyablement rarement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même des députés qui, à un moment donné, disent, moi, je ne suis pas d'accord avec telle disposition, avec tel texte, etc. Je ne le voterai pas. Et puis qui s'en... On l'a vu là sur le projet de loi, sur la proposition de loi anti-casseurs, on a une cinquantaine de députés LREM qui ont dit moi je m'abstiens. Mmh. Voilà, ils voulaient pas voter contre, est-ce que je peux comprendre, mais ils se sont abstenus, ça veut tout dire.
Pardon, Jean-Luc Warsmann. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, je partage tout à fait. J'ai fait partie des députés qui sont abstenus. Voilà, moi, je vois anti-casseurs, profession anti-casseurs, parce que j'ai trouvé que c'était par définition une mauvaise loi, une mauvaise manière de légiférer. Oui. Légiférer parce qu'au journal de 20h, on voit un problème, et dans les 15 jours, il faut voter une loi. C'est vraiment la mauvaise manière
Mais vous reconnaîtrez avec moi que c'est pas tous les jours, c'est assez rare, en fait, quand on... Est-ce que vous vous êtes abstenu ou vous avez voté contre, d'ailleurs?
Je suis abstenu.
Vous êtes abstenu. Pourquoi on vote pas contre dans ces cas-là?
Je crois que le message a été très fortement entendu dans tout le pays. Il vient d'être dit à cet instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unanimité. Et ayant été président de la commission des lois, je pense que le fait que je me suis abstenu en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire, je pense que ça a eu un peu d'écho, modestement.
Il y avait autre chose dans la question d'André, avant qu'on retourne au standard. 120-130 députés, après tout, ça suffirait. Notre assemblée est assez pléthorique. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui changerait si demain ils étaient entre 120 et 130?
Tout. C'est-à-dire que on parle souvent du député qui fait des lois. Bon, évidemment, vous êtes à la commission des lois, donc bon, je vais pas parler à la... Vous serez meilleur que moi là-dessus, vous avez plus d'expérience sur le sujet. Mais un député, ça ne fait pas que voter les lois ou ça ne fait pas que de la production législative. Il y a toute la question de l'évaluation des politiques publiques, dont qui n'a aucun moyen aujourd'hui, hein, concrètement, enfin moyen matériel, technique, humain, c'est le parent pauvre de l'Assemblée.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'en fait, on a un problème au niveau de l'administration, c'est qu'on a des députés qui ont plus d'infos sur le fonctionnement de l'administration et des données, par exemple, financières, économiques, parce que eux-mêmes viennent du privé et pas parce qu'ils sont députés de la commission des finances, ce qui est quand même un petit peu absurde. Il y a la question du contrôle de l'exécutif, avec notamment les commissions d'enquête. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais en gros, un député, ce n'est pas que de la production législative. Il y a aussi toute la diplomatie parlementaire à laquelle moi je suis assez attaché en fait. Et après, bah, comme l'a dit Monsieur Warsmann, il y a toute la question du terrain. Aujourd'hui, c'est quoi les Gilets jaunes? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit on veut voir les politiques, on veut les voir sur le terrain, on veut simplement les côtoyer au quotidien. On met moins de députés, et ben on les verra beaucoup moins en circo. Moi, j'ai presque envie de dire tout ce qui est territoire urbain, limite, c'est pas important, enfin, sans vouloir vous vexer. Mais pour les zones rurales, pour les territoires enclavés, le député, c'est un notable et c'est la relation de celui qui n'a aucune relation. Réduire le nombre de députés, à mon avis, ce sera une ânerie.
Jean-Luc Warsmann, sur cette réduction, alors là, drastique, comme le dit André.
Totalement aussi une réduction drastique. Qu'on dise qu'il faut 20 ou 30% de moins, c'est François Mitterrand qui en avait mis plus à l'époque proportionnelle en 1985, qu'on revienne dessus, j'ai pas d'avis. Ça peut très bien fonctionner avec 100 députés de moins. Par contre, il faut garder un maillage territorial. Et je vous fais un honneur...
Ça marche avec 100 députés de moins, vous dites quand même.
Oui.
C'est beaucoup,
oui, je pense que c'est pas substantiel. Par contre, passer à 120, c'est complètement irréaliste, parce qu'il y a un problème de maillage territorial. Je pense qu'il est indispensable que chaque concitoyen, chaque Français, puisse aller voir son député sans donner de raison.
C'est ça que ça change, si vous êtes 120 ou 130.
C'est-à-dire
que c'est plus un rôle d'élu local.
Absolument.
C'est-à-dire qu'en fait, le vrai problème de tout ça, c'est pas tellement une question du nombre de députés. À la rigueur, si, mais moi, je serais plutôt pour augmenter, mais je fais partie des rares qui veulent le faire. C'est simplement un problème d'organisation de l'Assemblée nationale. Je pense qu'en fait, la session unique n'a plus de raison d'être et qu'il faut peut-être revenir sur cette partie-là, sur la réforme Seguin, où on avait une période où les députés étaient à Paris, à l'Assemblée nationale du lundi au vendredi, et il y avait des moments qu'on appelait des intercessions, où les députés étaient en circonscription. Et du coup, bah, il n'y avait plus tellement... Enfin, je pense qu'une meilleure organisation de la maison, c'est peut-être quelque chose qui pourrait résoudre une partie des problèmes.
Jean-Luc Warsmann, vous, qu'est-ce que vous diriez effectivement, au moins on sait, pendant cette période, je dis n'importe quoi, de janvier à juin, ou de pouf, on est tout le temps à Paris, et puis l'autre temps, on est tout le temps dans sa circonscription, comme ça au moins on sait exactement où est le député, pourquoi pas.
En tout cas, la situation actuelle est absurde, elle peut pas continuer. On ne peut pas défendre l'idée qu'une nuit à 2h du matin, il y ait 30 députés qui ont voté pour, 12 contre, et qu'une loi a été votée. Pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'on est dans une situation de redite permanente. Et on n'a rien réussi à résoudre depuis des années. Tout s'est aggravé. En 5 ans, en France, on a plus de 100 000 amendements. J'avais un groupe de travail qui s'est rendu au Bundestag, au Parlement allemand. Et quand on a demandé à nos amis allemands « qu'est-ce que vous avez comme amendement en 4 ans ?», ils nous ont dit « c'est dramatique ». On arrive à 200, 190 en 4 ans. Donc on a aujourd'hui des masses d'amendements qui bouchonnent les commissions, qui bouchonnent l'hémicycle, où on se répète, où on ne passe des heures à s'écouter, à battre les amendements, etc. Tout ça pour rien du tout. Donc il y a un problème de réorganisation du travail, je suis entièrement d'accord.
Alors on va revenir aux amendements, je voudrais qu'on aille à la question de Solène que vous avez un tout petit peu effleurée. Bonsoir Solène.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, mais ça concernait justement ce point. Moi, ça m'a un peu choquée et je ne comprends pas. C'est les votes de nuit, justement, avec très peu de députés qui sont présents. Forcément que les députés pro-gouvernement qui font voter des lois sans concerter les autres, je trouve ça vraiment dommage. Et on a l'impression, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais de se faire enfler.
Voilà. Et merci Solène pour votre question qui va un peu dans le sens de ce que dit Elisabeth sur l'appli France Inter qui dit pourquoi n'existe-t-il pas un quorum pour voter les lois. Jean-Luc Warsmann, expliquez-nous comment ça se passe pour qu'on se retrouve à 4h30 du mat à 45 députés dans un hémicycle pour voter une loi et j'ai presque une question subsidiaire, racontez-nous comment les clés marchent quand même. Le fameux système des clés.
Il n'y a plus de clés.
Il n'y a plus de clés du tout.
Il n'y a plus de clés.
Jamais.
Comment ça marche? Lorsque vous déposez un texte, chaque député peut déposer des amendements. Avec l'informatique, c'est un raz-de-marée d'amendements. Donc on est en 5 ans, enfin par an, on a plus de 20 000 amendements. Chaque amendement donne droit au député un temps de parole. Il n'est pas limité en commission, il est 2 minutes dans l'hémicycle. Donc quand vous avez des séances de commission, dans la commission, vous votez pour ou contre chaque amendement, puis pour ou contre chaque article, et alors vous avez un texte. Dans l'hémicycle, on recommence tout. C'est-à-dire que quand vous avez un texte de loi qui a 10 articles, il y a 500 amendements avant l'article 1, on va débattre les 500 amendements avec l'article 1, et si les 500 auteurs sont là, ils auront droit à 500 fois 2 minutes pour les défendre, puis le gouvernement dire pour ou contre, puis la commission pour ou contre, puis on vote. Et donc on est dans un absurde de temps passé, et je me permets de dire, mais l'opposition est tout à fait complice de ça, parce que lorsqu'on propose de toucher à ça, l'opposition hurle, et l'opposition, si elle voulait être majoritaire à 2h du matin, elle le serait. Donc en plus, c'est dans un accord plus ou moins complice, laisse le système dégénérer.
C'est ce que j'allais vous dire. À un moment, j'imagine qu'on se compte et chacun se compte et se dit « Ah bah tiens, si, réveille-en deux ou réveille-en trois pour faire non », parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est aussi cynique au fond que ça, Trissard KTI?
C'est complètement cynique parce qu'en fait en commission ce qui se passe c'est qu'on a un texte, les amendements vont être arbitrés, discutés, ils vont être tamponnés, double tamponnés et après ça passe en séance. Le problème c'est que pour les gens en fait on découvre les amendements en séance, on découvre le texte en séance, mais en fait les députés eux ils le connaissent déjà et l'histoire des textes qui sont votés 4-5 heures du matin, ce qu'on oublie tout le temps de dire et ce qui moi personnellement m'embête un peu, c'est que c'est souvent une deuxième lecture, c'est-à-dire que le texte il est passé en commission, ensuite il est allé en séance, ensuite il est passé au Sénat où il a également amendement a été en commission et en séance. Il revient à l'Assemblée nationale où il est repassé en commission et enfin il arrive en séance. Donc en fait, c'est un replay du replay du replay. Donc oui, effectivement, il y a des textes parfois, ils sont votés à 4h du matin parce que en fait, c'est quasiment le même texte que ce qui est sorti du Sénat, tout simplement. Et c'est pas forcément choquant en tant que tel. Ce qui est choquant, effectivement, c'est l'heure de 4h du matin. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire systématiquement des votes solennels. Le vote solennel, c'est le moment où on réunit tous les députés dans l'Assemblée et on bloque quasiment le créneau. Mais par contre, là où je vais juste faire une petite correction, dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y a un quorum. Simplement, il faut que le groupe qui défend le texte le demande, tout simplement. Mais on peut tout à fait demander des votes solennels pour tous les textes. Faisons comme ça, mais alors niveau agenda, ça va être rigolo.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Luc Warthmann? Est-ce que ce sont les allers-retours qui sont trop longs? Puisque, effectivement, comme le disait Trissa Catriné, effectivement, alors, les navettes une fois, puis repasser en commission, et puis revenir, et puis amendement, etc. Donc, peut-on réduire ces navettes-là pour que chacun ait le sentiment que, d'accord, on peut se réunir après en vrai quorum, en vraie assemblée plénière pour voter un texte?
Trois éléments. Un, je suis d'accord pour le quorum. Deux, lorsque proposition concrète que l'on avait fait, qu'on a fait il y a quelques mois, lorsqu'un texte est voté en commission, l'auteur du texte, le gouvernement ou le député auteur du texte, doit pouvoir demander à l'hémicycle de voter pour ou contre. Si l'hémicycle est d'accord, le texte est voté. S'il n'est pas d'accord, il débat. Mais on ne redit pas. Troisième point. On a deux assemblées, Sénat, Assemblée nationale. Mmh. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas d'accord, on refait un débat devant l'Assemblée et devant le Sénat. Quand on refait les deux débats, savez-vous combien de fois ça fonctionne? J'ai fait la statistique depuis 25 ans.
Allez-y.
Dans 156 cas où l'Assemblée et le Sénat n'ont pas été d'accord, 155 fois, il n'y a jamais eu d'accord. Il y a eu un accord une fois. Donc une procédure qui échoue 99,4% des cas fait qu'on utilise des heures à l'Assemblée et des heures au Sénat. Et actuellement, le Sénat proteste en disant on ne veut pas supprimer cette double procédure parce que c'est nos droits qu'on supprime ou qu'on réduit. On peut pas garder des procédures qui échouent 99 fois sur 100, qui font passer du temps et qui discréditent le Parlement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel moment le système des clés
sous Philippe Séguin
terminé,
et désormais auparavant sous Philippe Séguin, un député peut tourner les clés de tout son
bien
groupe.
Sûr, ouais.
Désormais, un député vote dans tous les votes plus importants avec un bouton pour, contre ou abstention. Si une procuration a été enregistrée avant la séance à son faveur, son vote compte double. Mais c'est tout.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de procurations dans ces moments-là ou pas?
Il n'y a plus de délégation de vote, c'est terminé. Hein.
Si, si, il y en a encore des délégations. Cas typique, je suis député d'outre-mer,
allez-y.
Je suis de la Réunion, okay. Je viens 15 jours à l'Assemblée, j'en retourne 15 jours en outre-mer, je donne procuration dans les 15 jours.
D'accord,
où je suis
mais
pas
ça ne marche pas pour vous qui êtes député des Ardennes, par exemple,
si, ça
vous
peut
pouvez
marcher,
quand même donner votre procuration.
Une seule. Et j'annonce avant. Je ne m'annonce pas au dernier moment. J'annonce avant. Donc, mon vote, quand je vote, peut compter double. Double, dans le même sens. C'est tout. Je peux pas voter 10 fois ou 20 fois.
Voilà, c'est ça.
Donc,
c'est ce que j'allais vous demander.
Si vous avez 50 députés en séance, au maximum, si tout le monde avait une procuration, vous avez 100 suffrages exprimés, mais pas plus. C'est pas possible.
Il y a des blagounettes là-dessus. Donc, c'est pour ça, ils ont arrêté de faire ce genre de choses. Pour que quelque part le vote soit aussi le reflet de la réalité.
Bien sûr.
Alors je vais dire une hérésie, mais je le fais exprès. Quand je vous entends parler des multiples amendements, effectivement, et de la comparaison avec les Allemands, est-ce qu'il est possible de réduire le nombre d'amendements? Est-ce qu'au contraire, effectivement, on entendrait hurler à la fin de la démocratie? Ou est-ce que au fond, les amendements sont systématiquement utilisés pour une forme d'obstruction parlementaire?
Dans les faits, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je crois que le vice du système français, c'est de lier le temps de parole au dépôt d'amendement. C'est-à-dire que je pense que le bon équilibre du système, c'est chacun peut déposer un amendement, mais il n'a pas forcément un temps de parole. Et lorsque les temps de parole sont arrêtés, eh bien, on met au vote les amendements. C'est comme ça que ça se passe au Parlement européen. Et dans beaucoup de parlements, ça évite les dérives dont est victime le Parlement français actuellement.
Bertrand, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et soyez le bienvenu, on vous écoute.
Merci. Je voulais simplement connaître le salaire d'un député, d'un sénateur, savoir si de ce salaire il y avait une indemnité pour leur retraite, comment on la calculait.
Okay.
Et éventuellement aussi entrevoir s'il y a la possibilité simplement que ça soit pas la République qui paye le député, mais l'employeur ou la NPE s'il n'a pas d'employeur, et qu'on rembourse l'employeur à hauteur de son salaire initial.
Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait toujours eu une profession avant, qu'il soit sorti de sa profession, parce que si c'est pas l'employeur, ça, par exemple quelqu'un qui a
son dernier salaire en guise de salaire durant son mandat.
Que son dernier salaire soit son salaire pendant son mandat.
C'est ce que font les communistes.
C'est vrai.
Pourquoi pas?
Mm-hmm. C'est ce que font les communistes.
Ça veut dire que ça veut, ça, c'est-à-dire.
En fait,
parce qu'il y en a qui choisissent de ne pas toucher l'intégralité de leur salaire, c'est le cas de François Ruffin, par exemple.
Petite correction parce que j'y tiens, moi, c'est mon. Voilà. On ne parle pas de salaire pour les députés et les sénateurs, on parle d'indemnité. Pourquoi? Parce que le parlementaire, ce n'est pas une profession, c'est un mandat. Mais par contre, pour la question du régime des retraites, c'est aligné sur le secteur
certes,
privé.
Certes, mais bon, si je puis me permettre. Trissa Catherine, certes, c'est un mandat, certes, c'est pas une profession. Mais enfin, quand on l'est depuis très longtemps. Ça devient presque un métier, mais je vous en prie, continuez.
Maintenant, sur la question de l'alignement, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les députés touchent la même chose, donc 5 700 euros et je ne sais plus combien de dizaines nettes. Et après, les députés ou les sénateurs peuvent choisir de rétrocéder une partie de leurs indemnités à leur parti, de façon à ne pas s'enrichir sur leur mandat. Et à ma connaissance, c'est ce que font les députés communistes. Donc si avant, dans le secteur privé ou dans leur ancienne profession, ils touchaient 2000 euros nettes par mois, bah là, ils vont garder 2000 euros nettes pour eux et les 3000 et quelques, ils vont les reverser au parti. C'est aussi comme ça qu'on finance les partis politiques. Sur la question du régime des retraites, c'est maintenant c'est aligné, il me semble. Sur le secteur privé, ça a été la réforme des questeurs. Et il y avait une autre question, j'ai oublié laquelle.
C'est combien de temps les députés perçoivent une indemnité de retraite? Est-ce que c'est jusqu'à la fin de quoi, en fait? Comment ça marche pour l'indemnité de retraite, Jean-Luc Warsmann?
Deux éléments. Depuis 2018, à l'Assemblée nationale, je réponds pas du Sénat, à l'Assemblée nationale, nous sommes maintenant en droit commun, 62 ans, et on retombe dans le droit commun, ce qu'on aurait toujours dû être. Premier point. Deuxième point, nous avons maintenant à justifier de tous les frais de mandat. Et je trouve ça très bien. Mmh. Je vais faire partie des députés qui vont être contrôlés cette année. Troisième point, l'indemnité, elle est de 5 715 euros par mois. Pour ma part, j'y dépense 3 000 euros à mes frais de mandat. Parce que quand on travaille, qu'on se déplace, qu'on a du personnel, ben ça coûte de l'argent. Donc tout ça, on a les justificatifs à présenter. Et je trouve que ça doit être systématisé. Et c'est très bien. Comme tout salarié du pays, quand on a des frais salariaux, de déplacement ou autre, on présente le justificatif, ses kilomètres, ses factures.
Voilà, comme tout le monde, et c'est vrai que ça n'existe pas depuis si longtemps que ça, donc c'est toujours intéressant
très
de
peu,
se dire que...
Très peu,
effectivement,
2018,
voilà.
Hier.
Deux questions qui sont plus ou moins les mêmes. Une sur franceinter.fr qui dit « Pourquoi un député qui change de parti n'a-t-il pas l'obligation de remettre en question son mandat ?» Dans le même acabit sur le hashtag Telson, est-ce qu'un député peut changer de parti en cours de mandat? Et est-ce qu'au fond, ça n'est pas trahir les électeurs?
Ah, je l'ai vu ça.
Le mandat n'est pas impératif. Et donc le député qui est élu a sa liberté de vote. Donc évidemment, moralement, s'il fait l'inverse de ce qu'il a dit, c'est évidemment condamnable et les électeurs s'en occuperont à la prochaine élection. Mais personne n'a le droit de dire à un député, de lui faire signer par avance des engagements de voter telle ou telle chose. Il y a une liberté de conscience du député. Quand on est député, on peut avoir une situation qui évolue et en âme et conscience se dire ça j'assume pas, je ne suis plus d'accord. Et ça arrive.
Si c'était votre cas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez devant vos électeurs, même si on n'est pas dans le vote, mais vous expliquez chez vous les raisons de votre changement. Comment ça peut se passer pour que vous n'ayez pas l'impression?
Ça a été mon cas. J'ai appartenu au groupe Républicain au jour des dernières élections. Et aux dernières élections législatives, j'ai expliqué à mes électeurs que s'ils me réélisaient, je siégerais à un groupe constructif et que les projets du gouvernement qui me conviendraient, j'y voterais. Et donc j'ai eu l'accord de mes électeurs pour avoir le comportement que j'ai aujourd'hui.
C'est ça, mais ça ne s'est pas passé en cours de mandat?
Non, ça s'est passé avant les élections et dans la profession de foi qui est envoyée à tous les électeurs, c'est clair.
Trissa Catherine, là-dessus
le député exerce son mandat en toute indépendance, donc il a le droit de changer de parti. Après, la question, c'est comment il va gérer effectivement avec les gens de sa circonscription ou avec son ancien parti. Est-ce que c'est trahir ses électeurs? Bah non, puisque justement, comme le député exerce son mandat en toute indépendance, il n'est pas le représentant des gens de son parti, il est le représentant de toutes les personnes de sa circo. Et il ne faut pas oublier, le député, c'est la représentation nationale. Donc c'est tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas de son parti et qui n'ont pas voté pour lui.
Mais lorsqu'il change de bord, est-ce qu'il change aussi de commission? Parce qu'il y a un équilibre entre les partis en fonction des commissions auxquelles il appartient.
S'il change de groupe parlementaire, oui, pas s'il change de parti politique. Ça, c'est deux choses qui sont décorrélées. Par exemple, on a le cas avec Mathieu Orphelin, qui a quitté le groupe La République En Marche. Donc du coup, il a été amené, il me semble, à changer de commission permanente. Ça a été le cas de Joachim Son-Forget, en gros, de Sébastien Nadeau aussi. Donc comme il y a un équilibre à avoir au sein des commissions permanentes, il doit y avoir une représentation paritaire, c'est-à-dire si on met tant de Républiques en marche, il faut avoir la même proportion pour les Républicains, le PS et tous les autres. Donc oui, effectivement, ça peut être amené à bouger là-dessus. Donc les députés en sont tout à fait conscients, ils savent très bien quelles sont les conséquences pratiques, politiques, matérielles, s'ils commencent à quitter leur parti et les groupes parlementaires avec.
Jean-Luc Warsmann.
Tu remarques, la première à l'Assemblée nationale, tout est à la proportionnelle des groupes. Donc tous les postes sont répartis à la proportionnelle. Deuxième remarque, dans la tradition de l'Assemblée nationale, il y a une différence entre l'appartenance à un parti et un groupe. Si un parti exclut un membre, le groupe peut le conserver, parce qu'on considère que c'est la liberté du député d'exercer son mandat. Donc il y a toujours une différence entre les deux, et le principe en France, il n'y a pas de mandat impératif, on n'oblige pas un député à être au garde-à-vous et à obéir à des consignes d'un parti.
Allez, Patrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Patrice, allez-y.
Eh bien, je voudrais savoir quels sont les garde-fous qui permettent d'éviter qu'un parlementaire vote en fonction d'intérêts privés, rapprochés, voire même inféodés à un lobby. Et ma question pose la question de la prise de décision. Je crois que c'est le béaba de notre démocratie. Je pars d'un constat parce que un député, comme tout élu d'ailleurs, doit prendre des décisions après avoir soigneusement, méticuleusement confronté des arguments contraires. Ça me semble le bon sens. Notamment lorsqu'il est amené à valider ou invalider une proposition de la plus haute importance. Et ce que je vois par exemple dans mon département, ce qui fait l'essence même de notre démocratie, c'est totalement bafoué, que ce soit par les députés, les sénateurs ou les élus. Vous avez une immense majorité d'élus qui est aliénée à un projet que vous connaissez, le projet CIGEO, qui ne réfute pas les arguments contraires, mais qui refuse simplement totalement de les entendre. Et vous avez par le même temps un comité scientifique qui s'appelle l'OPEST, hein, l'Office parlementaire.
Parce qu'il a fallu qu'on vous remette dans le contexte. Pardon, Patrice, hein, vous parlez de Bure, vous appelez de la Meuse.
Oui.
On est dans l'enfouissement des déchets.
Voilà, c'est voilà. Ça. Non, parce que vous avez donc l'OPEST qui va traiter ce problème, qui a déjà commencé à en parler, qui est dirigé par le président Longuet et qui lui-même à la fois juge et parti. Mais c'est complètement scandaleux, quoi.
Patrice, merci beaucoup. Sur le alors spécifiquement sur Bure, Jean-Luc Warsmann, j'imagine que là-dessus c'est un peu loin de chez vous, mais les garde-fous, c'est ça l'intérêt de la question de Patrice, les garde-fous qui permettent d'éviter qu'un député vote en fonction de certains intérêts privés ou soit rapproché de lobby, quels sont ces garde-fous?
On n'a jamais autant avancé qu'aujourd'hui. Les garde-fous, c'est déclaration d'intérêt. C'est-à-dire que le député doit dire aujourd'hui s'il a des intérêts avec lesquels il les a et ce qui peut viser son vote. Ce qui n'existait pas il y a encore quelques années et qui, je crois, est un grand progrès. Le reste, c'est aussi la publicité des débats. C'est-à-dire tous les concitoyens peuvent aujourd'hui savoir, y compris dans les commissions, qui dit quoi, qui défend quelles opinions. Et ensuite, le député en répondre.
Patrice Acatriné, là-dessus, tiens, justement, parce que vous, votre rapport, par exemple, on peut le voir, il y a beaucoup de gens qui disent, mais on ne sait pas ce que font les députés, on ne sait pas comment ça marche. En fait, si tout est extrêmement public, comment on fait pour savoir ce que pense mon député, ce qu'il a dit, ce qu'il a voté? Est-ce que c'est facile ou pas?
Bah déjà, on peut lui poser la question. Non, mais je le dis avec beaucoup d'humour, mais en fait, si, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller... Alors, gentiment, poliment quand même, ne pas forcément...
Mais aller interpeller son député, bien entendu.
Interpeller son député, les réseaux sociaux, ça existe. Donc, y a pas, ça sert aussi à ça, à poser des questions. Parce que bon, les députés, ils sont pas... Enfin, contrairement à ce qu'on aimerait croire, c'est qu'ils sont pas déconnectés de la réalité, ils sont pas hors sol, ils sont pas sur un espèce de nuage à regarder en attendant que ça se passe. Quand ils voient qu'ils ont 50 personnes qui leur posent la même question, ils disent « Ah, il y a peut-être un sujet. C'est peut-être bien que j'explique pourquoi j'ai eu telle ou telle prise de position. » Les débats à l'Assemblée nationale sont publics, les amendements sont publics. Bon, il y a un tel volume que traiter la donnée, ça devient un peu... pour moi, ça a été un cauchemar, je le dis ouvertement.
Et vous y connaissez un peu. Donc, on imagine pour le Béotien qui va sur le site simplement de l'Assemblée nationale, et je trouve quand même bon courage.
Je trouve que le site de l'Assemblée nationale n'est pas forcément accessible aux gens qui ne savent pas comment fonctionne l'Assemblée nationale. Je pense que peut-être une refonte sur ce sujet-là, ce serait peut-être un petit peu pertinent, mais après, ça, c'est un avis qui engage que moi et certainement pas l'institution ou qui que ce soit d'autre. Moi, j'ai l'habitude. Donc je sais où aller chercher, mais même là, pour le rapport, il m'est arrivé de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc déjà ? Parce que il me manquait des informations, tout n'y était pas. Maintenant, quand il y a des soupçons de collusion, parce que là c'est bon,
c'est
dans le dur,
ça dont on parle.
Il y a des soupçons de collusion. Il y a des garde-fous, c'est le déontologue, et puis c'est aussi quelque part le rôle des commissions. Et en fait, on a un vrai problème au niveau des amendements, c'est que effectivement, il y a des représentants d'intérêts. À savoir des lobbies, qui parfois envoient des amendements, des questions écrites clés en main aux députés. Libre aux députés de les reprendre telles quelles, mais surtout de les sourcer. Parce que ça, si on reprend un amendement qui a été proposé par une association, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais il suffit juste de dire, voilà, cet amendement nous a été présenté par telle association. Auquel cas, à mon sens, il n'y a pas de débat parce qu'on donne l'origine de la chose et on explique aussi le cheminement intellectuel qu'on a eu. Et pour moi, c'est transparent et j'ai plus rien à dire.
Ambroise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Ambroise. Vous avez un prénom formidable.
Merci. J'avais une petite question par rapport à tout ce qui est vidéoconférence, de savoir pourquoi on est encore à faire se déplacer les députés ou les sénateurs aussi pour tout ce qui est vote et représentation à l'ère du numérique. Et donc, pourquoi ne pas faire les votes ou toute séance depuis leur bureau, ce qui éviterait donc Des indemnités peut-être plus basses ou autres.
Ça éviterait des temps de trajet et c'est mieux pour l'environnement, par ailleurs, si je puis me permettre. Merci
et
beaucoup.
Et puis, on pourrait s'assurer donc une présence obligatoire ou non des députés, de pouvoir aussi voir son député ou un autre en temps réel sur ses votes ou sur ses...
Merci Ambroise pour votre question. Une question similaire sur l'appli France Inter, elle vient de Marc. Le télétravail est-il envisageable pour les députés? Ils pourraient être physiquement en circonscription, mais intellectuellement à l'Assemblée. Jean-Luc Warsmann, est-ce qu'on a imaginé, envisagé, sans aller jusqu'au vote, parce que j'imagine que c'est bizarre le vote en forme de télétravail, mais les commissions par exemple?
Alors deux choses. J'ai l'honneur d'être conseiller régional de base de ma région Grand Est. On le fait. Les commissions se font en partie par visioconférence sur trois sites seulement. À niveau, et depuis 2016, tout est dématérialisé. L'Assemblée, depuis un an, tout est dématérialisé. Donc tout peut se faire par le télétravail, sauf les commissions, sauf les séances à l'hémicycle.
Donc tout c'est quoi? Tout sauf, d'accord,
tout le travail que vous faites d'études de la loi, d'études des amendements, vous pouvez le faire de chez vous. Vous avez tout sur une tablette désormais. Il y a plus d'amendements papier, il y a pas de rapport papier. Vous recevez les vendredis soirs les projets de rapport pour les textes de la semaine suivante. Donc vous pouvez les étudier de chez vous. Tout sauf la commission, les votes en commission et les votes dans l'hémicycle. Tout le reste du travail parlementaire désormais est déjà en télétravail potentiellement.
Il y a beaucoup de questions qui tournent autour du trop de travail à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de choses qu'on a entendues de ce point de vue-là, de la part de beaucoup de députés, pas seulement les nouveaux députés. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Jean-Luc Warsmann, qui est élu depuis combien, 21 ou 23, j'ai oublié?
Décembre 1995.
95, donc 22 ans, bientôt 23, c'est ça? 5, 6, 7, 8?
Vous n'êtes pas loin, je pense.
Voilà. Est-ce qu'il y a trop de travail? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on travaille plus à cette mandature-là que précédemment ou pas?
En tout cas, on est submergé de la vague d'amendements et de la vague de production législative. Ça, c'est évident. Et deuxièmement, un des gros défauts du Parlement français, c'est pas assez de temps dans l'évaluation des politiques publiques, le contrôle de la dépense publique et le contrôle du gouvernement.
Mais ça, c'était le cas avant? Ça a toujours été le cas ou pas?
Ça a toujours été le cas, mais c'est, je pense, pire aujourd'hui parce que les efforts qu'on a fait pour mieux contrôlés ont été submergés par la vague de production législative. Et objectivement, qui n'est pas de bonne qualité, parce que la masse des amendements amène des lois trop confuses, trop longues et trop absconses.
Trissa Catherine, sur ce temps.
Alors l'évaluation des politiques publiques, c'est la réforme Sarkozy, enfin c'est la réforme constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy. Donc ça forcément avant, oui, on n'y passait pas forcément beaucoup de temps avant. Par contre le contrôle de l'exécutif, ça a toujours été un peu fait de manière un peu superficielle, mais c'est aussi parce que le focus il est porté sur la production législative. Tout ce qui est évaluation des politiques publiques, contrôle de l'exécutif n'est pas forcément valorisé. Si je mets de côté les questions au gouvernement, qui à mon avis, c'est pas de la valorisation, c'est juste du cirque permanent. Pour moi, c'est l'aspect le plus médiocre de l'Assemblée nationale, des questions au gouvernement telles qu'elles sont aujourd'hui.
Parce qu'on se précipite en grappe autour du micro, c'est vous qui l'écrivez, parce qu'il y a ceux qui ont effectivement un...
Il y a un côté suricate. Encore le côté grappe de raisin ou suricate, ça je trouve ça presque mignon, voilà. Mais quand on les voit par exemple,
une veste jaune fluo, comme ça on le voit bien.
Ça, c'est pas
grave.
C'est
pour les caméras, les insultes? Non, mais sérieusement,
oui.
C'est vraiment que pour les caméras?
Oui. C'est que pour les caméras, parce que même il y a des députés, moi je les ai rencontrés, on a été surpris avec Nicolas, en séance, ils sont déchaînés, on s'est retrouvés en rendez-vous avec eux, ils étaient dans le calme, mais on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait, il a une double personnalité, il se passe un truc. Donc, en fait, je pense qu'il y a une partie, tout simplement, du travail. Effectivement, les députés travaillent beaucoup, mais déjà d'une, parce qu'il y a beaucoup d'amendements de l'opposition et aussi de la majorité maintenant qui s'est remis, mais parce qu'on n'a pas la culture de la concertation en amont. Ça, c'est un truc très français.
Oui.
Et parce que...
C'est pas d'hier.
Ça date pas d'hier, mais aussi parce qu'il y a une désorganisation parlementaire qui est due aussi à l'exécutif, qui pousse les textes avec des procédures accélérées, et du coup, qui prend un peu le Parlement à la hussarde. Résultat, on a l'impression que les députés ne servent à rien à part faire banquette dans l'hémicycle, et on a l'impression que l'exécutif brouille un peu les cartes, donc il faudrait peut-être rééquilibrer les choses, mais c'est quelque chose de global.
Donc est-ce qu'on enlève les questions, par exemple, les questions publiques du mercredi, effectivement, pour éviter de se retrouver avec une espèce de foire d'empoigne qui, effectivement, est du cinéma? Jean-Luc Warsmann, la démocratie y perd ou pas?
Les enlever, non, mais je partage le même avis. C'est, je pense, une des plus laides images du Parlement. C'est caricatural.
Est-ce que vous avez déjà participé à ce genre de joute, vous?
Je n'ai pas posé de questions d'actualité depuis le début de la législature. Donc c'est une
réponse à votre question. Comment c'est déterminé, d'ailleurs, qui pose les questions d'actualité?
Ce sont les députés qui sont candidats et c'est le groupe qui choisit.
Parce que ce que j'ai lu avec intérêt dans votre rapport, c'est notamment qu'à un moment, il faut se faire connaître, il faut savoir peser. Alors, j'ai été trop absent, donc je vais mettre 2 ou 3 amendements, comme ça on entendra mon nom. C'est moi qui vais poser la question. Ça existe, ça. Il faut faire de la présence, il faut faire de la stat, en fait, de la statistique.
Ouais, clairement. Il faut faire de la stat. On en a certains qui nous ont dit, bon, on va préserver leur anonymat. Mais il y en a un, par exemple, qui nous a dit qu'il venait de devenir parent. Et que du coup, bah, il était un petit peu absent. Mm-hmm. Bah, ça, on peut le comprendre. Mm-hmm. Hein, mais comme il n'y a pas de congé parental, c'est bien pour ça que j'insiste sur le fait de dire député, c'est pas un métier. C'est parce que, par exemple, les dispositions du code du travail basiques, comme le congé maladie, le congé parental, n'existent pas. Et ben, bah, dit voilà, bah, pour essayer de passer un peu de temps quand même avec ma famille.
Donc je triche.
Je triche un peu sur les stats, mais c'est parce que cette maison n'est pas forcément l'organisation. N'est pas adapté au 21e siècle, en fait, c'est ça le truc.
Mais le suppléant sert à quoi, du coup?
Et le suppléant,
à part, il attend qu'il soit mort, c'est ça? Le député? Non, mais sérieusement, enfin, je dis
on
ça
va pas,
sans
on va pas tuer les députés.
Non, mais sérieusement, je dis ça sans rien.
Non, mais on peut pas les actionner pour l'instant, les suppléants. On les actionne quand, par exemple, il y a un, bah là, ça va être le cas avec Madame Montchalin. C'est sa suppléante qui va prendre la place parce qu'elle part au gouvernement. Mais par exemple, si le député est malade ou il est dans une situation temporaire d'empêchement, on peut pas actionner le suppléant. Et le suppléant n'a pas de statut. Il lui en faudrait un. Ça pourrait être une piste de travail.
C'est un peu le vice-président des États-Unis à l'époque où il ne servait à rien. Au fond, le suppléant, est-ce que Jean-Luc Warsmann, vous laisseriez votre siège à votre suppléant de temps en temps parce que vous êtes très largement occupé ailleurs?
C'est une question qui humainement est très difficile parce que j'ai vécu ça. J'ai été élu remplaçant député en 1993, comme vous l'avez dit. Il est tombé gravement malade. Mm-hmm. Et dans les faits, j'ai fait tout ce que j'ai pu de travail dans la circonscription, mais je n'avais aucun statut et aucun droit d'être dans l'hémicycle. Et donc, ce qui vient d'être décrit, est, en l'occurrence, c'est une grave maladie, puis on est décédé. Et c'est la réalité. Ça n'est pas tous les jours. Mais ça fait partie des situations et ça fait partie des vides qui ne devraient plus exister dans un Parlement en 2019.
Il nous reste très peu de temps. Antoine, promettez-moi d'être court, mais bonsoir et soyez le bienvenu.
Bonsoir.
Allez-y, Antoine.
Alors, je vous promets d'être court. Moi, je me demande tout simplement si, en fait, on n'a pas un problème de représentation à l'Assemblée nationale. Je m'explique. J'ai devant moi, par exemple, un tableau de l'INSEE me montrant les catégories socioprofessionnelles des actifs en France. Je vois par exemple que j'ai 13% d'ouvriers qualifiés, 13% d'ouvriers non qualifiés, etc.
Ah oui, je la vois venir, votre question. Oui, bien sûr.
Voilà. Tout simplement, en fait, ma question est la suivante. C'est est-ce que pour que notre démocratie, entre guillemets, fonctionne mieux, est-ce que ce serait pas, en fait, plus intéressant d'avoir des vrais représentants du peuple tirés au sort parmi les catégories socio-professionnelles et non pas des représentants élus, comme j'entends par exemple votre invité qui est quand même dans les cercles du pouvoir depuis apparemment 1993, qui commence à faire quand même quelques années.
Merci. Pardon Antoine, mais vraiment, il faut que je vous répondre. Coupe si vous voulez que Jean-Luc Warsmann vous réponde. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, qu'on a beaucoup entendu sur les ronds-points avec les Gilets jaunes. Quand on regarde l'Assemblée, on regarde pas la France.
Oui, mais il y a un principe de base, c'est le principe de l'élection. Alors je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut. Ma circonscription fait partie des 45 qui ont voté pour Marine Le Pen en majorité absolue en mai 2017. Un mois après, j'ai battu la cote du Front National 74-25. Ça veut dire que j'ai des gens qui ont voté pour toutes opinions qui m'ont aidé. Donc aujourd'hui, je suis député. Pourquoi je le suis? Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai une majorité des gens chez moi, quel que soit leur avis, qui viennent m'aider. C'est ça la démocratie. C'est pas le tirage au sort, c'est le fait que les concitoyens soutiennent. Ça, c'est sacré. S'il n'y a plus de démocratie représentative, c'est plus la démocratie.
C'est quoi votre métier, Monsieur Warsmann?
Avant, je travaillais dans une mutuelle.
Très bien.
Et j'étais très heureux.
Triste à Catherine, et pour finir.
Très rapidement, cette histoire de l'absence de représentativité supposée des députés, je l'entends depuis le début de la 15e, depuis la 14e, depuis que je suis née. Alors, moi, je voudrais juste donner un exemple très rapidement. Dans la circo dans laquelle j'habite, j'avais cinq candidats pour l'extrême gauche. Et pour qui les gens de ma circo ont voté? Ils ont voté pour un chef d'entreprise. Donc, moi, je refuse le tirage au sort parce que c'est comme jouer aux fléchettes et on ne sait pas sur qui on atterrit. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui sait pourquoi il est là. Et je vous invite vraiment tous, autant que tous les auditeurs, à consulter les déclarations d'intérêt des députés. Ils sont beaucoup plus représentatifs qu'on ne pourrait le penser de la France.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous et portez-vous bien.